לעילוי נשמת אנטוניה בת קלרה עמדנה. Et donc la mère de
Merci, c'est ma grand-mère, c'est ma grand-mère.
la grand-mère de Raya. Voilà, intervient dans l'histoire un nouveau personnage, un personnage important. Ce personnage, c'est quelqu'un d'extrêmement riche. Il est devenu riche parce qu'il a probablement il a mieux ramassé les richesses des Égyptiens au moment du passage de la mer, comme les bijoux. Les Égyptiens étaient venus avec plein de bijoux et de choses précieuses, beaucoup d'or et d'argent. Et les Bnei Israël l'ont tous pris de ce butin quand Akadosh Baruch Hu a permis que les Bnei Israël franchissent la mer. Et lui, il en a pris plus que les autres, donc il est très riche. À part ça, Chazal disent que Korach, c'est quelqu'un de Pikeach. C'est quelqu'un de très intelligent. Et parce qu'il est très intelligent, les Chachamim ont du mal à comprendre comment il s'est embarqué dans cette chose-là, dans laquelle il s'est embarqué et dans laquelle il va se casser la figure. Alors, dans la chose en elle-même, on va en parler. Alors, en plus, lui, c'est quelqu'un de la tribu de Lévi, c'est donc un cousin de Moshe Rabbeinu. Et cet épisode, il a lieu après que il y a eu une nécessité de nommer un responsable d'une partie de la tribu de Lévi, et que Moshe, sur l'ordre d'Hachem, a nommé un de ses cousins. Et le problème, c'est que si on s'en tenait à l'ordre des naissances dans la tribu de Lévi, c'était au tour de Korach d'être nommé. Et donc, Korach n'a pas du tout apprécié que ce soit quelqu'un d'autre, un cousin qui, lui, aurait dû être plus loin que lui dans la liste des nominations, qui ait été nommé, et il va faire comme si c'était Moshe qui avait pris l'initiative personnelle de nommer ce cousin-là plutôt que lui. Et donc il va mener une révolte, rébellion contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe là? Un instant, travail de conciergerie. Okay. Je sais pas pourquoi ça échoue. Tu es dessus?
Oui, yeah.
Je sais pas, j'arrive pas à faire la connexion. Bien, voilà ce qu'on sait au départ de Korach. Alors le passouk, comme souvent, c'est un passouk difficile parce que le passouk dit Vaïkar Korach et on donne le pédigré de Korach, donc Ben Itsar, Ben Kehat, Ben Lévi. Et avec lui, il y a deux autres, enfin, il y a trois autres personnes. Il y a d'abord le fameux couple Datan et Aviram. Datan et Aviram, eux, sont des gens de la tribu de Reuven. Et ce sont les deux qui ont dénoncé Moshe Rabbeinu quand Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien. L'Égyptien qui voulait tuer le Juif dont il avait violé la femme, etc. Eux l'ont dénoncé à Paro et c'est pour ça que Mon cher Abeno a dû fuir, sa tête était mise à prix, il a dû s'enfuir et il va disparaître pendant 60 ans. On ne retrouvera mon cher Abeno que à peu près à l'âge de 80 ans, alors que il avait à peu près 20 ans quand il est parti. Donc c'est les deux affreux là, le Datan et Aviram. C'est des gens qui, on se demande d'ailleurs par quel mérite ou de quelle manière ils sont encore là, et ils sont là. Et puis, il y a un troisième bonhomme qui s'appelle On Ben Pelet. Tous ces derniers-là sont tous de la tribu de Reuven. On va expliquer pourquoi. Alors, On Ben Pelet, ça a l'air de, bon, c'est un troisième. Lui, il a été sauvé par sa femme. Donc, dans un cours de femmes, ça vaut la peine de le mentionner. D'accord, c'est-à-dire que il était normalement prévu qu'il aille, qu'il manifeste avec Korach dans la rébellion contre Moshe. Sa femme lui a dit, écoute, t'as vraiment rien à gagner dans cette affaire, parce que si vous gagnez contre Moshe, c'est pas toi qui seras le chef, de toute manière. Et si c'est Moshe qui gagne, eh ben, tu le seras pas non plus. Donc, qu'est-ce que tu as à gagner? Alors, on a dit, mais oui, mais je me suis engagé, comment est-ce que je peux pas me désengager? Alors, sa femme, elle lui a dit, laisse-moi faire. Et quand, le matin, quand le groupe de Korach, Datan, Aviram sont venus pour entraîner On avec eux, ils ont ouvert la porte, en quelque sorte, de la tente de On. Et dans cette tente, la femme de On s'était installée et elle a découvert ses cheveux. Elle était chez elle. Et ces gens-là qui vont se rebeller contre Hachem, contre Moshe, etc. Mais ils ont jeté un coup d'œil et quand ils ont vu une femme qui n'était pas couverte, ils sont partis. Et donc ça a sauvé le camarade On. Alors que, par opposition, dans le Midrash, on met toujours en face de la femme de On, on met la femme de Korach. Elle a toujours jeté de l'huile sur le feu. Parce qu'à un moment donné, la Torah avait rapporté que quand les Lévi'im sont entrés en service, il a fallu les consacrer en quelque sorte. Et dans le processus de consécration, il a fallu les raser totalement, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus un poil sur le corps. Et donc, Korach est rentré chez lui, et sa femme, elle l'a reçu en lui disant, t'as bonne mine. Est-ce que tu t'es vu dans ce miroir? Elle s'est moquée de lui, et lui, il a dit, mais c'était ça la procédure, et Moshe se l'est appliqué à lui-même. Alors, madame, Korach, la répartie, elle a dit, tu vois, il est même prêt pour te faire souffrir, pour t'humilier, pour se moquer de toi, il est même prêt à s'appliquer à lui-même la procédure, l'essentiel, c'est que toi, tu sois humilié. Et Korach, qui pourtant était intelligent, il n'a pas su quoi dire à sa femme, donc il a suivi sa femme. Ces gens-là sont de la tribu de Reuven. La contestation de Korach, elle va porter sur, au départ, c'est une nomination d'un petit chef dans la tribu de Lévi. Mais du coup, ça va remonter et Korach va accuser Moshe Rabbeinu de népotisme, c'est-à-dire de nommer ceux qui sont le plus proches de lui ou ceux qui ont une tête qui lui revient particulièrement à lui. Et donc, Korach va contester même la nomination d'Aaron. Il va contester aussi le rôle de Moshe, finalement. Mais bon, le point de mire dans cette affaire-là, c'est Aaron. C'est-à-dire que Korach, lui, si déjà il proteste, il vise, il voudrait obtenir d'être lui le Kohen Gadol. Lui, il est un Lévi. Et c'est vrai que les gens de la tribu de Lévi, qui sont les descendants d'Aaron, normalement ils devraient avoir le même statut que les Lévi, mais ils ont un statut un peu différent. Et surtout, chez les Chachamim, dans le Zohar ou ailleurs, on dit que les Lévim, ils sont d'un côté et les Kohanim de l'autre. C'est-à-dire, c'est une opposition entre la gauche et la droite. Et donc, si on est Lévi, alors, c'est pas que on n'a pas été nommé Kohen, mais il y a eu un changement radical à partir du moment où les Kohanim, la descendante d'Aaron, ont reçu une tâche particulière. Ils ont changé, ils sont passés de la gauche à la droite, si vous voulez, au contraire. Et donc, Korach, celui, ce qu'il conteste, il conteste la différence entre la gauche et la droite, puisqu'il prétend être quelque part omnipotent, lui. Moi, on peut me mettre n'importe où, je serai toujours à la hauteur, en fait. Donc, je peux prendre une place qui ne correspond pas du tout à mon côté, en fait. Donc, quand il va contester le choix fait par Moshe de son frère Aaron. Et du coup, il y a une autre contestation. Vous vous souvenez, quand Yaakov Avinu a donné les brachot à ses enfants, à la fin de sa vie, les brachot qu'il a données, dans certains cas, ont plutôt l'air d'être presque des klalot. En particulier, ce qu'il a dit à son fils Reuven, qui était son fils aîné, il lui a dit en quelque sorte, c'est toi mon aîné, tu aurais dû normalement être roi, Kohen Gadol, et avoir la double part. En particulier, ce qui est intéressant, ça veut dire que dans ce projet-là, il n'y avait pas de séparation des pouvoirs. D'accord? C'est-à-dire, c'est la même personne qui était roi et Kohen Gadol. Donc cette notion de séparation des pouvoirs, qui va devenir quelque chose de très important, en théorie, elle n'existe pas, mais en pratique, oui, elle va exister. Elle va exister très fort parce que la tribu royale, c'est Yehuda. Et normalement, les Kohanim ou les Levim ne peuvent pas devenir rois. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé, vous vous souvenez, avec les Hashmonaïm qui étaient des Kohanim et qui se sont bombardés rois. Alors, a priori, dans les Chachamim, on n'était pas très d'accord. Mais peut-être qu'il faut le voir comme quelque chose de particulier. Il n'y avait personne dans la tribu de Yehuda à ce moment-là qui pouvait jouer ce rôle-là. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû lui donner un statut de roi, on peut discuter. En tout cas, le Rambam, lui, ça ne le dérange pas. Il ne va pas déranger. Et donc, il y a une différence Il y avait initialement pas, et maintenant après, il y en aura une séparation des pouvoirs entre la royauté, le législatif et le. Donc, il n'y a pas de différence entre un législatif et l'exécutif non plus. Mais en plus, c'est la personne qui assumerait ces deux choses-là aurait dû être également Kohen Gadol. Or, donc, Yaakov a enlevé à Reuven toutes ses prérogatives. Et donc, une des explications qu'on donne sur le fait que Yaakov n'a donné ses brachot qu'à la fin de sa vie, vous vous souvenez, c'est parce que Yaakov craignait que Reuven, en particulier, quand il allait entendre ce que Yaakov allait lui dire, il allait partir s'allier avec Ésaü. C'est-à-dire, il viendrait quelqu'un, il viendrait lui qui a été privé, qui a été spolié éventuellement de son rôle de premier, d'aîné, par exemple. Ben, il va s'allier avec quelqu'un d'autre qui lui aussi conteste le fait qu'on lui a pris la Bechorah. Et Yaakov lui a pris la Bechorah, c'est Ésaü. Et donc, pour que Reuven n'ait pas besoin de rencontrer Yaakov après les brachot, qui ont été difficiles, parce que Yaakov lui a dit en pleine figure, c'est peut-être difficile. Alors, Yaakov a choisi de ne donner ses brachot qu'à la fin de sa vie, complètement à la fin. Et donc, par contagion, en quelque sorte, les gens de la tribu de Reuven pensaient qu'eux auraient dû avoir, par exemple, la double part. Or, vous savez que la double part, elle a été donnée à Yosef. Yosef, il a la double part puisqu'il a deux de ses enfants qui deviennent des tribus de plein pied, quoi, si vous voulez. Et les Reuvenites, ils pensaient que ben, c'est nous les enfants de l'aîné de Yaakov. Donc c'est à nous que ça devrait revenir. Et donc ils en veulent, à part le fait que dans l'organisation des Bnei Israël autour du Mishkan, il y avait des cercles, enfin disons des anneaux concentriques. Il y avait les gens de la tribu de Lévi, proche de Korach, était très proche des gens de la tribu de Reuven sur l'autre anneau, en quelque sorte. Donc, il y a une espèce de contagion. C'est pour ça qu'on a affaire à des Reuvenites, là. Il y a ces gens dont les noms sont donnés. Et en plus, Ve'anashim ibnei Israël, Chamishim u'mataim nesi eidak, kriyei moed, anshechem, les 250 personnes qui sont des nobles aussi réouvénites, essentiellement. Donc, voilà, ce genre-là. Alors, ce que vous voyez dans le premier verset, c'est que le verset parle, il commence Vaïkar. Vaïkar, en français, ça veut dire il a pris. Et il n'y a pas, on ne nous dit pas qu'est-ce que Korach a pris. Bon. On dit, il a pris Korach et avec lui Datan, Aviram, On Ben Pelet au départ, et après s'il a, et puis les 250 gens, mais on ne sait pas du tout où ces gens-là qui sont les preneurs, mais qui a été pris? Qu'est-ce qu'ils ont pris? En général, quand prendre s'applique d'homme à homme, d'être humain à être humain, ça veut dire qu'ils ont été pris par des paroles. C'est-à-dire que Korach était un excellent débatteur, un excellent avocat, et il a convaincu les gens d'aller avec lui parce qu'il savait vraiment très bien parler. Et dans notre paracha, on va voir que il y a là il y a, si vous voulez, la dispute entre eux. C'est pas une dispute avec des actes, mais on dispute en parole. Et il va y avoir, on va voir dans une espèce de dialogue qui n'est pas positif, mais on va voir des trucs, des problèmes de rhétorique, etc. Donc, a priori, le vaïkar ici est aussi le mot qu'on utilise, mais en français aussi, on dit prendre épouse, d'accord? On dit aussi prendre épouse, et vaïkar isha, un homme qui se marie, qui prend épouse, on dit en hébreu comme en français, vaïkar. Oui, je qui car. Alors, Vaïkaalu al Moshe ve al Aaron. Et ces gens-là, ils se sont rassemblés, en fait, al Moshe ve al Aaron. Littéralement, al, ça veut dire au-dessus d'eux. Donc, ils sont là, on veut dire par là qu'ils sont là en accusateurs de Moshe et d'Aaron. Vayomru alehem. Et ils leur disent. Donc, ici, le Vayomru, a priori, c'est comme si tous les personnages cités là parlaient en même temps. C'est peu vraisemblable, probablement, que Korah devait parler pour tout le monde. Alors, comment il s'adresse à eux? À Moshe et à Aaron, ils leur disent Rav Lachem. Rav Lachem, ça veut dire vous exagérez, vous en prenez beaucoup trop. Rav, c'est beaucoup. Lachem, pour vous, vous en avez pris beaucoup trop. Rav Lachem. Rashi dit, arbe yoter midai, beaucoup trop. Lekartem la atzmechem gdoula. Vous avez pris beaucoup trop de titres de grandeur, en fait. Beaucoup trop, d'autant que ki kol ha'eda kulam kedoshim. Parce que toute l'assemblée, tous sont saints, sont kadosh. En quoi est-ce que tout le monde est kadosh? Rashi, Kulam shamu dvarim besinai, mipi hagvura. Tout le monde a entendu les paroles d'Hachem au Sinaï. Donc, d'être récipiendaire des paroles d'Hachem, ça a donné à tout le monde de la Kedusha. C'est-à-dire, on est séparé du reste du monde parce qu'on a bénéficié on a reçu la parole d'Hachem qui s'adressait à nous. Bon, il est vrai que tout le peuple a entendu. Alors, vous voyez la thèse de Korach pour ramener tout le monde à lui d'une certaine manière. Korach, il abolit la hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. On est tous au même niveau. On a tous la même Kedusha. Cette Kedusha, elle vient d'avoir entendu la parole d'Hachem au Sinaï. C'est-à-dire, en fait, Korach, il veut être, bien sûr, il veut être le chef, mais il ne le dit à personne. Il parle, soi-disant, au nom de la collectivité, en disant que tous sont affectés par l'exagération de pouvoir que Moshe et Aaron se sont donnés. Et en plus, cette assemblée-là, Betocham, Hachem. Cette assemblée, elle est autour d'Hachem. Hachem est parmi eux. Et par conséquent, il y a une telle kedusha qui est répandue dans tout le clan d'Israël. Mais alors, de ce fait, Madoua, Titnasu, Al-Kaal Hachem, pourquoi est-ce que vous vous êtes mis au-dessus de l'assemblée d'Hachem? Vous voyez le tribun, là, c'est vraiment les arguments. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Alors, la première réaction de Moshe et d'Aaron, Vaishma Moshe, Vaipolal Panav. Moshe Rabbeinu, il entend ça. Alors, Rashi détaille, dit Madoua Titnasu, pourquoi au pluriel? Im Lakarta Ata. Donc maintenant, on voit, Rashi lit, que Korah s'adresse à Moshe. Si tu as pris pour toi Malchut, la royauté, tu t'es bombardé, roi. Lo haya lecha levarer leachicha keuna. Tu n'aurais pas dû attribuer la keuna à ton frère. Lo atem levatrem shmatem besinai. Parce que vous n'êtes pas les deux seuls à avoir entendu au Sinaï Anochi Hashem Elokecha, Kol ha'eda shamu. Tout le monde a entendu cela. Donc vous n'avez rien de plus que les autres. Vous vous souvenez, on a parlé semaine dernière, il y a 2 semaines, du fait que il fallait s'interroger sur, et en tout cas, Hachem lui-même s'est interrogé, si on peut parler comme ça, et il a proposé une solution sur quelle est la source de l'autorité de Moshe Rabbeinu. Bon, pourquoi est-ce qu'il faut suivre Moshe Rabbeinu? Et Hachem a dit à Moshe, vous vous souvenez, c'était la raison pour laquelle Hachem s'est manifesté au Sinaï, c'était, je vais te parler, et je vais te parler de sorte que les Bnei Israël entendent que je te parle, et que du coup, ils vont te faire confiance dans le futur. Donc, Akash Boku a le souci d'assurer l'autorité de Moshe Rabbeinu pour le futur, et on peut se demander, alors, et jusque-là, c'était quoi l'autorité? Qu'est-ce qui a donné à Moshe Rabbeinu l'autorité qu'il avait jusque-là? Au monde, ça fait quand même 50 jours qu'ils sont sortis d'Égypte jusqu'au Sinaï. Pourquoi ils lui ont fait confiance, en quelque sorte? Alors, ils lui ont pas trop fait confiance, mais il était en position chaque fois de les diriger, de faire l'intermédiaire, de parler avec Hachem pour eux, etc. Et il leur a donné les conseils, il leur a donné l'ordre d'avancer dans la mer et avec l'assurance que Hachem allait s'occuper d'eux, etc. Il les a sortis d'Égypte. Hachem a pensé que ça ne sera pas suffisant pour assurer son autorité dans le futur. Et eux disent, il faut abstraction de tout ce que Moshe et Aaron ont fait pour le clan d'Israël jusque-là. Bon, ça, d'aucune manière, ça ne vous donne un privilège quelconque sur nous. Vous n'avez rien de plus dans la Kdusha. Le fait qu'Hachem parle avec Moshe, qu'Hachem, même au Sinaï, il a parlé en particulier avec Moshe, toute une partie de ce qui a été dit, tout ça, il l'entend, il n'en fait pas, il n'en parle pas, Korah. On a tous entendu la même chose. Vous, vous avez entendu, mais vous n'êtes pas les seuls à avoir entendu. Nous aussi, on a entendu. C'est vrai que, à la limite, on pourrait dire que c'était pas évident que Moshe entendait plus que les autres, si vous voulez. La preuve, c'est que Myriam et Aaron se sont laissés piéger par ça. Eux aussi, ils ont fait comme si la neuve voix de Moshe n'était pas différente de la leur. Donc ces choses-là, au premier abord, on peut dire, mais nous, on est beaucoup plus malins et nous, on se serait jamais trompés. N'oubliez pas que Aaron et Myriam se sont trompés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on entend un discours pareil? Ce que fait Moshe, il se jette à terre, en fait. Pourquoi? Parce qu'il voit la naissance d'une marloquette. Il y a la naissance ici d'une rébellion. D'accord? Pourquoi? Il dit parce que c'est déjà la quatrième fois qu'il se révolte. Et Rashi énumère, Khatouba Egel et Vayachel Moshe. Ils ont fauté au Egel et Moshe Rabbeinu est intervenu, il a arrangé les choses. Bamitonenim, Vaitpalel Moshe, les mitonnim, les meraglim, les explorateurs. Et maintenant, à la quatrième révolte du Korach, Nitrashlu Yadav. Tout à coup, Moshe Rabbeinu n'a plus la force. Bon, à chaque fois, il a déployé des trésors d'invention d'habileté, etc., de dire à Hachem, mais si tu les détruis comme tu en avais le projet, comme tu énonces le projet, c'est faire un chilul Hachem, etc. Donc il faut y penser, il faut inventer ça quand même. Bon, mais là il n'en peut plus. Nitrashlu Yadav. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Non, c'est la porte, quelque chose? Mon cher Abénou. Oui. Oui, mais justement, on pourrait dire, même en additionnant tous ceux qui sont cités là, ça fait quelques centaines, enfin, disons qu'il y a 300 personnes, c'est rien du tout à l'échelle du peuple. Mais j'imagine qu'il faut penser que tous les autres, qui sont spectateurs, personne ne bouge. Oui, en plus, il y a l'autorité des chefs, mais personne ne bouge. Donc, en tout cas, Moshe Rabbeinu n'a pas eu l'impression qu'il serait soutenu, quelque part, qu'on puisse parler comme ça. Au départ, les Meraglim aussi, c'est quoi? C'est 10 personnes. 10 des 12, mais voilà, c'est les chefs, ils représentent et ils parlent au peuple, et le peuple, ben ouais, il voit pas. Finalement, est-ce que tu peux répondre? C'est extérieurement, qu'est-ce que ça a l'air que Moshe, il prend tout pour lui, quoi. Machal, alors Rachid, il a jugé nécessaire de nous expliquer pourquoi il n'a pas la force. Machal le Ben Meller chez Sarah à la vive. Alors il donne un machal, une parabole, un fils qui se révolte contre son père. Ou pièce Salav Ahavo, pardon. Pam, Ptaim. Et l'ami du roi va parler au roi pour essayer d'excuser le fils, pour rabibocher le père et le fils. Une fois, deux fois, trois fois. Pour que chez Sarah, Révi'it, dit Trachelou, Yede, Aoré, Vaou. Mais la quatrième fois, il n'a plus la force. Amar, Admataya, Triach, Alamener. Jusqu'à quand est-ce que je vais embêter le roi? Shemaloi Kabel Od Mimeni. Il en aura marre, il ne va plus m'écouter. Rashi cite ici un Midrash Tanhuma. Alors, je voudrais bien savoir en quoi à quoi sert le Midrash. Ce n'est pas un cours de Midrash, mais quand même, à quoi sert la parabole ici? Qu'est-ce qu'elle dit de plus que ce que Rashi avait déjà dit? Que la quatrième fois, il n'en peut plus, mon cher Rabbeinu. Et là non plus. Si vous voulez terme à terme, le roi c'est Hachem, l'ami du roi c'est Moshe, le fils du roi c'est le clan d'Israël. Le clan d'Israël, là on voit que dans le Machal, on a pris tout le clan d'Israël, n'est-ce pas? Le fils du roi, c'est pas spécifiquement Korach Ve'Adato, mais c'est tout le peuple. Or on n'a pas encore entendu du tout dans le texte que tout le peuple était d'accord avec Korach, mais en tout cas, il se peut que le silence du peuple est déjà suffisant pour dire que bon, ils entendent, ils auraient dû massacrer tort, ils auraient. L'idée, c'est comme ça, c'est que tout a changé, il faut pas l'oublier, tout a changé à partir des Meraglim. Parce qu'après les Meraglim, Hachem a sauvé le clan d'Israël, mais pas complètement. La génération en question, elle va mourir. Et donc, du coup, les Bnei Israël, ils en veulent un peu à Moshe de ne pas les avoir sauvés complètement cette fois-ci. Et donc, quelque chose devient possible qui aurait été impossible jusqu'alors. Personne n'aurait pu se permettre de parler comme ça à Moshe avant les Meraglim. Mais après les Meraglim, la position de Moshe n'est plus aussi assurée, si vous voulez. Et c'est peut-être pour ça que Moshe se demande ce qu'il y a de nouveau, si vous voulez, c'est que dans la parabole, on a dit. À la quatrième, il n'a plus la force, l'ami du roi, et il dit, jusqu'à quand est-ce que je vais embêter le roi? C'est-à-dire, tout à coup, Moshe Rabbeinu se dit, mais peut-être que j'en fais trop, quoi. Hachem, et surtout, il dit, peut-être que le roi m'écoutera plus. Je vais perdre l'oreille du roi. C'est-à-dire que, à force de trouver des arguments pour justifier les Bnei Israël, pour les excuser, etc., peut-être qu'Hachem n'écoutera plus. Trois fois il m'a écouté, maintenant il m'écoute plus, peut-être. Ça n'a pas été dit explicitement, c'est dit dans la parabole. Donc, peut-être, on ne voulait pas dire ça sur Hachem, mais on veut dire quand même, ne pas le dire parce qu'on ne veut pas l'exprimer, mais néanmoins, on veut quand même faire passer l'idée que peut-être il y a une limite au pouvoir de Moshe. C'est Moshe lui-même qui sent que je ne peux pas faire n'importe quoi. Et après cela, il se relève et il parle à Korach. Vaidaber el Korach, vel kol adato. Il parle à Korach et à l'assemblée de Korach. On va voir probablement que plus loin, que c'est possible qu'il faille entendre Korach vekol adato. Ça veut dire que que Moshe Rabbeinu a parlé aux gens qui sont autour de Korah. Ce que je veux dire, c'est que on verra que dans la suite, il y a deux personnages qui sortent du lot. Les deux méchants, là, Datan et Aviram, eux, ils vont avoir un statut à part. Donc, c'est possible que Moshe Rabbeinu ne parle pas à Datan et Aviram ici. Il parle à Korah. Pourquoi il parle à Korah? Parce que Korah est intelligent. Il est intelligent. Et Moshe Rabbeinu ne comprend pas comment Korah peut s'embarquer dans une bêtise pareille. Alors, il lui dit, Boker, il dit, ouais, écoute, ok, je t'écoute, on va faire un test. Boker, Yoda Hashem et Asherlo, Veta Kadosh. Hashem va montrer, va faire savoir qui est à lui, qui est saint et qui il a rapproché, qui Hashem a rapproché de lui. Je ne suis pas Démosthène, hein, mais. J'ai pas mis de cailloux dans ma bouche. Ne sais pas si les images, si vous entendez le bruit de la pluie, mais il est impressionnant. Alors il dit, celui qui l'aura choisi, il va le rapprocher. Hachem va rapprocher, encore une fois, concrètement, celui qui l'aura choisi. Alors voilà le test que je vous propose. Koulachem martot. Prenez des encensoirs. Korach v'choladato. Korach et tous ses adeptes. Donc Rashi, il explicite les choses. Il dit que quand Moshe dit Et Asher Lo, il parle des Lévim. Quand il dit celui qui est Kadosh, c'est ceux qui sont Kohanim. Ceux qui rapprochent, en vérité, ceux qui sont à son service. Et le mot Boker au matin, pardon? Là, il n'a pas, Rachid n'a pas dit clairement, mais c'est tous les autres. Et le mot Boker que Moshe a dit, Boker. Yoda, c'est-à-dire au matin. Pourquoi il a dit Boker? Il leur a dit, mon cher a dit, Gvulot chalak akadosh baolamo. Hachem a mis des limites. Il a déterminé des moments particuliers dans son, ou des lieux particuliers dans son monde. Tout ça vient contrer le Kulam Kedoshim de Korah. D'accord? Korah il efface les différences et Moshe dit Boker. Hachem a mis des limites dans le monde. Yecholim atem la for Boker la erev. Est-ce que vous pouvez transformer le matin en un soir? De la même manière, si vous pouvez le faire, alors vous pourriez aussi annuler la différence entre les Kohanim et les Levim, comme vous voulez le faire. Kach yavdil Aaron l'agdisho. De la même manière, Hachem va montrer que Aaron, il a l'agdusha de la Kehuna, et que vous ne l'avez pas. Alors, il leur dit, prenez chacun des encensoirs. Et Rashi explique pourquoi il a choisi ce test-là. Il leur dit, les goyim, les idolâtres, évidemment, eux, ils ont aussi des cérémonies, des ordres, etc. Mais ils ont aussi beaucoup de prêtres. Et tous les gens se rassemblent dans la même, au même endroit. Nous, c'est pas comme ça. Nous, on a Hachem Echad, on a un Aaron, une table, enfin une boîte de l'Arche de l'Alliance, en fait. Torah Achat, une Torah, Mizbeach Echad et Kohen Gadol Echad. Et vous êtes 250. Et vous voulez tous les 250 veulent la Kehuna Gdola. Vous voulez tous la Kehuna, être Kohen Gadol. Il n'y a qu'un seul Kohen Gadol. Afani Rotse Bekar. Alachem, Tashmish, Raviv, Mikol. Alors, on va voir. Vous allez faire la chose, le service d'Hachem qui est le plus cher à Hachem. Parce que l'encens, c'est le korban le plus éthéré qui soit. C'est un korban presque immatériel, parce qu'en fait, dans l'encens, c'est le nuage. Le nuage odorant qui, c'est ça la avoda de l'encens. C'est pas les parfums qu'on brûle. Les parfums qu'on brûle sont le moyen de produire le nuage. Mais la avoda, c'est de produire un nuage. Donc c'est la avoda par excellence parce que on tue personne, on brûle rien, rien de, enfin, non, c'est pas la suite. Il y a pas de violence, si vous voulez. Dans la composition de l'encens qu'on va brûler, vous savez qu'il y a 11 essences qui forment la matière qu'on va brûler pour produire ce nuage. Dans les 11, Sama Mavet Natun Butoko, Shebo Nisrufu Nadav Veavihu. Dans les 11, il y a un poison. Il y a le Samamavet, un poison. C'est ce mélange avec ce poison qui a fait que Nadav et Avihu sont morts. C'est pour ça que Moshe, il les met en garde. Faites attention. Si vous vous embarquez là-dedans, vous risquez gros. Parce que si Hachem n'accepte pas votre encens, il risque de vous arriver la même chose que ce qui est arrivé à Nadav et à Abihu. Évidemment, nous, on le sait bien. Chemi, chez Ifrar ou Akadosh. On sait bien que celui qu'Hachem va choisir, c'est lui et lui seul qui aura la Kedusha de Kohen Gadol. Et là, Amar Lahem Moshe, et Moshe leur dit, Areni Omer Lachem, Shelo Titraivu. Je vous demande, ne vous mettez pas dans la situation où vous risquez votre peau. Mishi Frarbo, Yetzechai, celui qui a été choisi va s'en sortir vivant. Le Kulchem Ovdim, et tous les autres, vous tous, vous allez mourir. Donc ces encensoirs, c'est des kélims dans lesquels On coupe les. Bon, y a des braises. On va brûler les braises. Et l'encensoir, il a une poignée qui permet de le présenter. Je reviens dans le texte. Prenez des marteaux, Korach et toute son équipe. Mettez-y le feu, mettez-y de l'encens devant Hachem, demain, Veaya, et alors, Aish, Hachem Yifra, Hachem, ou Akadosh, Rav Lachem Bnei Lévi. Et le répète, vous voyez, Moshe Rabbeinu, il prend la même expression. Eux, ils lui ont dit, Rav Lachem Moshe Aaron, il leur répond, Rav Lachem Bnei Lévi, pourquoi vous ne vous contentez pas du statut extraordinaire qu'Hachem vous a donné? Vous êtes au service d'Hachem, tous. Vayomer Moshe el Korach. Et du coup, Moshe, il reparle à Korach, il lui dit, Shimuna Bnei Lévi. Écoutez, s'il vous plaît, Bnei Lévi. Ameat Mikem, qui dit l'Eloke Israël etrem, Beadat Israël, la Kriv etrem Elav. Est-ce que c'est peu sur le fait qu'Hachem vous a singularisé? Dans tout le cas d'Israël, on vous a pris, vous, les Lévim, pour être au service d'Hachem. Donc, vous êtes rapprochés, Hachem vous a rapprochés. Est-ce que c'est une petite chose? Vous allez servir Hachem devant, c'est-à-dire au nom de tout le peuple, en fait. Vayakrev otra, vetkolachecha bnei Lévi itach. Et Hachem t'a rapproché, toi et tes frères, tous les bnei Lévi, avec toi. Et maintenant, bikashtem gam keuna. Et maintenant, vous voulez aussi la keuna. Alors, sachez, la reine. Atab choladatcha, toi et toute ton équipe, anoadim al Hashem, en fait, vous vous révoltez contre Hashem. Parce qu'en réalité, si j'ai donné la Kehuna à Aaron, c'est sur l'ordre d'Hachem. Donc cette querelle que vous nous cherchez, elle n'est pas du tout à sa place. En vérité, vous êtes en train de vous révolter contre Hachem. Donc ça, c'est ce qu'il a dit à Korach, et comme vous voyez, Korach n'a pas répondu. Et certains expliquent que Korach ne répond pas parce qu'il sait que argumenter contre Moshe, il n'y arrivera pas. Moshe est plus fort que lui dans l'argumentation. Bon, ça c'est Korah. Et maintenant, Moshe va aller chercher, il s'occupe de Datan et Aviram. Il les envoie chercher. Et eux, ils répondent, Lona allez, on ne viendra pas, on ne va pas monter. On ne montera pas vers chez toi. Et là, ils reprennent les termes de Moshe. Ameat. Est-ce que c'est une petite chose de regarder la chutzpah de ces gens? Qui est l'itanou? Est-ce que c'est une petite chose que tu nous as fait le sale coup? Il y a un peu de doute là. Regardez le texte. Est-ce que c'est une petite chose ce que tu nous as fait là? Tu nous as fait monter d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire crever dans le désert. C'est-à-dire, ils sont en train de dire sur l'Égypte, la louange qui va sur le clan d'Israël, sur la terre d'Israël. Et en plus maintenant, vous voulez nous dominer. Et encore, tu nous as pas amenés vers un pays où coule le lait et le miel. Tu nous as pas donné des champs, des vignes. Est-ce que tu crois que tu peux aveugler les gens? L'on a allé, on ne montera pas, on viendra pas. Eux, ils veulent même pas discuter. Vaïchar le Moshe Meod. Et Moshe a été fortement affecté, en fait. Vaïchar. Il est un peu en colère. Et du coup, il a prié à ce moment-là. Vaïomer el Hashem, al tefen el minchatam. N'agrée pas. Ne tourne pas ton visage, ça veut dire n'agrée pas leurs menachot, les offrandes. Lo chamor echad mehem nasati, velo areoti et echad mehem. Et là, on ne comprend pas vraiment. Enfin, le jeune ne comprend pas vraiment. Qu'est-ce que Moshe dit? Il dit, ne les écoute pas. Pourquoi pas les écouter? Et Moshe dit, pourquoi il ne faut pas les écouter? Parce que j'ai jamais utilisé ma voiture de fonction. J'ai toujours pris ma voiture à moi. J'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Et là, du coup, on ne comprend pas vraiment. Parce que peut-être que Moshe est inspiré par Hachem, etc. Peut-être qu'un jour il a pris la voiture de quelqu'un ou comme ça. Est-ce que ça le disqualifie d'être le leader? C'est des êtres humains. Ici, on voit donc que pour être Moshe Rabbeinu, quelque part, il faut être parfait dans tous les domaines. Il y a une exigence folle, parce que prendre la voiture de fonction quand il circule pour les Bnei Israël, ce serait tout logique, tout à fait logique. Pourquoi pas? C'est pour ça qu'elle est faite, cette voiture, non? Mais non, je ne l'ai pas prise, c'était sur mon compte, j'utilisais ma voiture à moi. Et du coup, il se tourne maintenant vers Korach. Vous allez vous présenter devant Hachem, toi et eux tous, et Aaron, demain. Et prenez chacun votre encensoir, vous y mettrez de l'encens. Et vous allez l'approcher devant Hachem, chacun son encensoir, les 250 encensoirs, et toi et Aaron, chacun son encensoir. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis le feu, ils ont mis le ktoret, l'encens, et ils se sont tenus à la porte du Ohel Moed. Il y avait aussi Moshe et Aaron. Et à ce moment-là, Korach, il a rassemblé tout le monde, il les a harangués. Tout le monde, il avait ramené tout le monde, il pensait, on a l'impression qu'il y croyait, quoi. Tout le monde. Et puis, Vayera Kvod Hashem, El Kol Haedah. La gloire d'Hachem s'est montrée devant tout le monde, en fait. Rachid dit que quand Korach a rassemblé tout le monde, me dit vrai l'Etsanout. Il s'est moqué du test de Moshe. Kol ha-laila ahou alach etzel ha-shvatim upita otam. Pendant toute la nuit, Korach est allé d'une tribu à l'autre pour essayer de les séduire, les convaincre, en leur disant, vous pensez peut-être que je roule pour moi? Pas du tout. Je roule pour vous tous. Eux, ils viennent, Aaron, Moshe, ils viennent, ils prennent toute la grandeur. Lui, la royauté, son frère, la Kehuna. Et ils ont réussi, dit Rashi, il a réussi à convaincre tout le monde. Il a séduit tout le monde. Et alors, le matin, la gloire divine, Ba Bermoud Anan, la gloire s'est manifestée dans un nuage. Hachem a dit à Moshe et à Aaron, séparez-vous de toute cette populace, je vais les détruire en une minute. Et à ce moment-là, Moshe et Aaron se jettent à terre et ils prient. Et ils s'adressent à Hachem. Ils lui disent, Quel Eloke Haruchot, le Chol Bassar? Ils s'adressent à Hachem et ils lui disent, Aish Echad Yecheta, Valkola Eda Tiktsof. Il y a un homme qui faute et tu vas te mettre en colère sur tout le peuple. Alors, Rachid explique. Bon, c'est intéressant, c'est-à-dire que Hachem va montrer que Moshe a raison, etc. Et Moshe dit, mais attends, on va pas tuer tout ce monde-là. Il faut peut-être punir Korach, lui tout seul, mais pas tout le peuple. Alors, quel Eloke Haruchot? Dieu, le Dieu des esprits. C'est-à-dire, Yodéa Marchavot, toi qui sais, toi Hachem, tu sais les pensées de chacun. En midat rak, midat basar vadam. Il ne fonctionne pas comme les hommes. Mener basar vadam, chez Sarah Halav, Miktsat Medina, un roi de chair et de sang, s'il y a une partie du pays qui s'est révolté contre lui, Eno Yodéa mi a choté, il ne sait pas qui a fauté, qui n'a pas fauté. Donc quand il se met en colère, il paye, il fait en sorte que tout le monde doit payer. Avalata, lefanecha, gluyot, kol ha-machshavot. Mais toi, tu sais exactement ce qu'il en est de chacun. Yodea ata mi a fauté. Tu sais très bien qui a fauté, qui n'a pas fauté. Et donc, qui est-ce qui est. Vraisemblablement, il y avait des gens qui n'ont pas osé se désolidariser. Si les chefs ont dit on va avec Korach, le soldat X, machin, il n'a pas osé dire non, moi je vais avec Moshe. Mais il n'en était pas d'accord, mais il n'a pas osé. Et par conséquent, Hachem, il sait exactement que qui est-ce qui était d'accord avec Korach, qui ne l'était pas. Aïch Echad ou Achoté, il y a un seul bonhomme qui a fauté. Vata al kol ha'eda tiktsof, et toi tu te mettrais en colère contre tout le peuple. Avant Kadosh Baruch Hu, il a fait un marteb. Je me dis, vous avez bien parlé. C'est juste. Ani yodea modia mihata. Je sais et je vais faire savoir qui a fauté. Ou milochata, qui n'a pas fauté. Donc il a dit à Moshe Aaron, éloignez-vous d'eux. Daber Hachem el Moshe les morts, Daber el Aïda les morts. Hachem dit à Moshe, parle au peuple. Et alou misaviv le Mishkan Korach, Datan ve'Aviram. Dis au peuple de s'éloigner des tentes de Korach, Datan, Aviram, etc. Voyakom Moshe va'yelech el Datan ve'Aviram. Et Moshe est allé chez Datan et Aviram, eux qui n'avaient pas voulu venir vers lui, mais lui il est allé chez eux. Et les anciens d'Israël l'ont accompagné, Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, il a parlé à tout le monde. Suruna, éloignez-vous, s'il vous plaît, des tentes de ces Rechaïm-là. Ne touchez à rien de ce qui leur appartient. De crainte que vous soyez entraînés dans leur faute. Yalou, Me'al, Mishkan, Korach, Datan, Aviram, Misaviv, Datan, Aviram, Yatsu, Nitsavim, Datan et Aviram, très fièrement, ils sont venus à la porte de leur tente avec toute la tribu, toute la famille, leur père, leur femme, leurs enfants, les petits, les enfants en bas âge. Et Moshe leur a dit, Bezot tedou, avec ce qui va se passer maintenant, vous saurez. Ki Hashem shlachani la'asot et kol ha'maasim ha'eleh. Vous allez savoir que, contrairement à ce que vous dites, c'est Hashem qui m'a envoyé faire tout ce que j'ai fait. Lo milibi, j'ai rien fait de ma propre initiative. Et là, Moshe demande quelque chose d'extraordinaire. On pourrait penser que il va demander que ces gens-là meurent, quoi, qu'ils soient punis. Et Moshe demande autre chose. Moshe dit, si ces gens-là meurent comme tout le monde, alors, ce sera la preuve que Hachem ne m'a pas envoyé. Et si Akadosh Baruch Hu crée quelque chose de nouveau, et que la terre ouvre sa bouche, enfin la terre s'ouvre, ou bala otam bet kol asher lahem, et les avale, eux, et tout ce qu'ils ont, et qu'ils entrent, ils descendent vivants dans le Sheol. Le Sheol, c'est la résidence des morts. Vidatem, à ce moment-là, vous saurez qu'il n'y a tsoa anashim ha'eleh. Ces gens-là ont profané, ils ont injurié quasiment et Hachem, Hachem. Vaik chalotol daber et kol advarim ha'eleh. Dès qu'il a eu fini de parler, la terre s'est ouverte sous les tentes et les pieds de ces gens-là, elle les a avalés, eux, leur maison, pour les gens qui étaient autour de Korach et tous leurs biens. Ils sont tous entrés vivants dans le Sheol. Et la terre s'est refermée, et donc ces gens-là ont été perdus pour le Kahal, pour la communauté. Et tous les gens ont été effrayés. Ils sont partis en hurlant. en disant, ils ont eu peur que c'est une espèce de tremblement de terre qui va les avaler tous. Et alors maintenant, ça c'est les Korach et compagnie. Mais les 250 ish de la tribu de Reuven, eux, ils ont été détruits par un feu. Eux, ils sont d'une certaine manière morts un peu à la Nathan Aviou, Nadav Aviou, pardon. Oui. Alors, on lit toute la paracha, mais pas toute la paracha, mais ce morceau-là, parce qu'il est tellement bouleversant et pas, pour regarder un peu dans le détail. Hachem parle à Moshe et il lui dit, dis à Elazar, ben Aaron, le Cohen, de ramasser tous les encensoirs dans tout ce qui a brûlé. D'une part, et jette le feu au loin, enfin, éteins le feu, quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut ramasser ces encensoirs? Parce qu'ils ont été offerts à Hachem. Ils ont été sanctifiés. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les marteler et on va en faire une plaque. Qui va recouvrir le Mizbeach. Donc, d'une certaine manière, ils deviennent un peu Mizbeach. C'est absolument extraordinaire. Ces encensoirs qui ont été approchés par des gens qui se révoltaient contre la parole d'Hachem, mais qui avaient un certain degré de confiance en Hachem, ils ont vraiment. On considère que c'est la sanctification, donc on valide. On aurait pu dire qu'ils ont fait ça simplement pour un test, mais non. Eux, ils l'ont fait, ils y croyaient vraiment, quoi, quelque part. C'est les Maplim là-bas, ces gens-là qui ont voulu montrer, eux, ils ont été détruits. Ils ont fait la guerre et ils ont été battus. A priori, ils ne voulaient pas se conformer. C'est-à-dire qu'en vérité, ils ne croyaient pas que c'était Hachem qui avait ordonné les choses à Moshe. Et donc, ils se révoltent contre Moshe et ils ont confiance, si on peut parler comme ça, dans la démarche que Moshe leur propose quand même de demander à Hachem de décider. Quelque part, c'est presque comme, je sais pas, c'est presque comme dans la procédure de la Sota. C'est demander à Hachem de décider. Ils sont d'accord. Moshe dit, écoutez, bon, on va voir. Et donc, ça devient quelque chose de très important. Et c'est un hôte, l'Ibn Israël. C'est un signe pour l'Ibn Israël. Un signe de quoi? Un signe qui doit rappeler un zikaron au Ibn Israël que personne de non-Cohen n'a le droit d'approcher des encens, de brûler de l'encens devant Hachem. Et la leçon, c'est ça. La leçon, c'est que on ne peut pas servir Hachem comme on en a envie. Vous pensez que puisque vous voulez servir Hachem, alors vous pouvez servir Hachem. Et la leçon, c'est non, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas autorisé à servir Hachem parce que vous n'êtes pas Kohanim. La vérité, c'est que, en fait, de ne pas être Kohen, Gadol, ce que Korach reproche, ce que Korach aurait voulu être, il aurait voulu être Kohen Gadol. En fait, il associe de commun avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aussi, il aurait dû être Kohen Gadol et il ne l'a pas été. Moshe Rabbeinu aurait dû avoir la Kehuna Gdola. Il l'a perdue parce que il n'est pas allé sauver les Bnei Israël, sortir d'Égypte immédiatement quand Hachem le lui a proposé. Alors?
Donc, la santé.
Non, non, c'est pas censé, mais lui, tous les deux avaient un désir d'être Kohen Gadol qui n'a pas été, qui n'était pas possible, ou qui était plus possible ou pas possible. Pour Kohen, pour Korach, c'était jamais possible. Pour Moshe Rabbeinu, c'était possible, mais il l'a perdu. Oui, bien sûr, mais Chazal explique que quand il y a eu le passage de témoins au moment de l'inauguration du Mishkan, quand on a installé en quelque sorte Aaron comme Kohen Gadol, ça s'est fait après que Moshe Rabbeinu, pendant 8 jours, a fonctionné comme Kohen Gadol. Et tous les Mefarshim disent que c'est d'autant plus difficile pour Moshe de devoir de passer le témoin à son père. Il l'a accepté, il ne pouvait pas faire autrement. Mais bon, ce n'est pas évident. La Kehuna Gdola, c'est quand même quelque chose. Et bien sûr que Moshe, il avait quelque chose qu'Aaron n'avait pas. Mais la Kehuna Gdola, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. Le Kohen Gadol, il va entrer, par exemple, à un endroit où Moshe Rabbeinu n'entrait pas. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol, il est tout seul devant l'Aaron HaKodesh, tout seul. Jamais Moshe Rabbeinu n'était dans cette situation.
Mais ce qu'on voit qu'il
Non, mais il a pas protesté,
a.
mais Hachem lui a dit, je te l'enlève. Je suis pas en train de dire que Moshe et Korach, c'est la même chose. Je dis simplement que le problème de ne pas être Kohen Gadol, c'est un problème que Moshe avait aussi. Alors, Korach, c'est du délire, mais bon. Il y a un problème de sincérité dans la démarche qui fait que, comment expliquer que ces martotes-là, ils vont devenir une partie du Mizbéar, quoi, de l'autel. Mais en fait, c'est pas complètement terminé, malheureusement. Vaïlonu kol ha'eda, kol ha'dat bnei Israël, mimachorat, al Moshe v'al Aaron l'emor, atem amitem et am Hashem. Le peuple, après tout ça, accuse Moshe et Aaron, vous avez tué le peuple d'Hachem. Et donc le peuple se... Voilà, se révolte contre Moshe et Aaron. Et les gens se sont commencés à se monter contre Aaron. Et donc, Hachem dit à Moshe, séparez-vous de cette assemblée de nouveau, je vais l'anéantir en un instant. Et de nouveau, Moshe et Aaron se jettent par terre. Et Moshe dit à Aaron, le feu commence à tuer les gens. Et Moshe dit à Aaron, prends le ktoret, l'encensoir, mets le feu, tu prends du feu du Mizbéach, tu le mets, et tu vas avec ton encensoir auprès de l'assemblée en question. Et ça va apaiser la colère divine. Faut te dépêcher parce que ça a déjà commencé à détruire les gens, à tuer les gens. Aaron a fait exactement ce que Moshe lui a dit de faire. Il a interrompu la magepha, tragédie, en fait, la destruction. Et il y a 14 700 personnes qui meurent à ce moment-là. Donc, il va y avoir une nouvelle procédure de mise en évidence de la Kehuna Gdola de la Kedusha d'Aaron, avec l'histoire des bâtons qui pourraient fleurir, et seul le bâton d'Aaron va fleurir. Les Bnei Israël se plaignent, ils disent, mais on n'arrête pas de mourir, quoi. Est-ce on va jamais arrêter de mourir? Voilà, disons, cet épisode est terminé à peu près.
Rav, est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on sait si Korar savait qu'Hachem avait retiré la Kehuna Gdola à Moshe à un moment de l'histoire, parce qu'il aurait touché quelque chose de sensible chez
Non,
Moshe,
non, je ne crois
qui aurait...
pas. Je crois pas.
Donc il savait.
Disons, en tout cas, j'ai jamais vu que la chose ait été connue. Le Midrash dit que il l'a enlevé à Moshe parce que dans les psukim, quand Hachem dit à Moshe, Aaron, ton frère, le Lévi, qui aurait dû être le Lévi et toi, le Kohen Gadol, c'est lui qui va devenir Kohen Gadol. Donc là, on apprend que Aaron a pris de l'importance suite au refus de Moshe de parler. Aaron est celui qui va parler à Paro parce que Moshe ne veut pas, ne peut pas parler à Paro. Donc c'est toujours Aaron qui va parler à Paro. Quelque part, le couple en question, Moshe et Aaron, va fonctionner comme couple dans certaines circonstances, pas tout le temps, mais après, quand Hachem va parler à Moshe, la neuve voix de Moshe, il n'y a que Moshe qui l'aura. Aaron n'aura pas accès à ça. De la même manière, si on peut parler comme ça, que Moshe n'aura pas accès à la Kehuna Gdola d'Aaron. Voilà, on va s'arrêter là. Télim.
Élim, Yoshev, c'était Elion Bessel.